Peut-être pensez-vous qu'une fois marié, le couple est solide comme un roc et qu'il est inutile d'y passer trop de temps. C'est vraiment ce que je vous souhaite, mais croyez-moi, c'est difficile. Est-ce que je suis pessimiste ? Non, réaliste. Nos vies quotidiennes sont remplies d'activités et de passions qui peuvent faire courir de grands risques aux amoureux. Nous nous appelons Aurélie et Joseph, et après une première saison consacrée à la préparation au mariage, nous sommes ravis de vous accueillir dans la saison 2 du podcast « Se marier et durer » consacré à la vie des vrais couples.
Dans ce podcast, nous rencontrons le père Pierre-Marie Castaignos, serviteur de Jésus et de Marie et accompagnateur de couples depuis plus de 20 ans pour aborder les sujets qui peuvent fragiliser ou consolider l'amour. Cette première mini-série est dédiée à la colère. Difficilement maîtrisable, elle est dans certains cas une indignation nécessaire et dans beaucoup d'autres, la cause de nombreuses blessures. Dans ce premier épisode, nous avons voulu définir les contours de notre sujet. C'est quoi la colère ? Et pourquoi se met-on même en colère ? Bonne écoute ! Bonjour mon père.
Bonjour Aurélie et Joseph.
Alors nous attaquons maintenant une mini-série sur la notion de la colère. La colère qui est une émotion bien connue de la plupart des êtres humains et qui, comme telle, a un rôle tout particulier dans le couple. Et pour le pire, peut-être pour le meilleur, mais en tout cas souvent pour le pire. Peut-être pour commencer, essayer de comprendre un peu ce que c'est la colère. Donc la colère, c'est une émotion qui est connue depuis très longtemps puisque déjà Aristote en parle. Et il la décrit comme une des 11 émotions que tous les êtres humains ont en eux. Alors on a souvent bien en tête les effets de la colère une fois qu'on est en colère. Donc ça peut être des cris, de l'agressivité, des insultes, voire parfois une agressivité physique. Mais on connaît moins les causes de la colère. Pourquoi est-ce qu'on peut se mettre en colère ?
Alors c'est vrai qu'Aristote aborde la question de façon assez intéressante. Il dit au fond la colère vient d'une injustice. À un moment donné, on a senti que une injustice a été commise à notre rencontre de différentes manières. Ça peut être une injustice dans le monde professionnel, une injustice, le couple a été injuste d'un manque de reconnaissance l'un envers l'autre, une injustice dans nos relations. D'une certaine manière, la colère est une émotion qui naît d'une injustice. Donc, mais en tant qu'émotion, moi je me permets d'insister là-dessus, c'est qu'en tant qu'émotion, elle est ni bonne ni mauvaise. Et ça, c'est bien que de voir qu'Aristote, hein, vous savez, 4e siècle avant Jésus-Christ, donc Aristote dit que les émotions sont neutres. Or, je trouve qu'il y a une forme d'éducation même catholique qui a voulu moraliser les émotions. C'est-à-dire qu'on a voulu, d'une certaine manière, il y a des émotions bonnes, il y a des émotions mauvaises. Or, les émotions en tant que telles, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Hein. Par exemple, la joie est considérée plutôt comme une émotion positive, mais la joie peut m'entraîner à faire des choses complètement aberrantes. Hein. Dans un excès, une excitation de joie, etc., je peux prendre des engagements qu'ensuite je regrette. Donc, ce n'est pas tant les émotions qui sont à moraliser que les conséquences des émotions. Et pour la colère, personnellement, je regrette qu'on ait mis la colère dans les 7 péchés capitaux. Parce que je trouve que ce n'est pas, contrairement à la gourmandise, etc., à l'orgueil qui sont, eux, être en colère. C'est intéressant de voir que, par exemple, c'est une notion assez ambivalente. C'est que, pour Saint Bernard, le fait de ne pas se mettre en colère était un péché. Parce qu'on n'avait pas assez d'attention à l'autre, à ce qui est, on ne dénonçait pas l'injustice. Donc, du coup, je trouve que c'est une notion qui est intéressante parce que assez ambivalente, hein, et le fait de moraliser la colère n'aide pas à la mettre à la bonne place, voilà, sachant qu'on se rappelle tous, évidemment, de cette parole de Jésus avec les marchands du temple, etc. Donc, la colère, elle peut être aussi très positive, quoi.
Alors, la colère est considérée comme l'un des 7 péchés capitaux, du coup, à tort ou à raison, mais cela signifie que c'est un péché qui entraîne d'autres péchés. Et donc néanmoins, il semble difficile de refuser de la colère. Enfin, quand la moutarde, elle montonnait, c'est pas maîtrisé, elle montonnait, ça sort. En tout cas, moi, c'est mon cas. Qu'est-ce qui est de l'ordre du péché dans ce cas ? Est-ce que c'est le fait de ressentir de la colère ?
Alors, je crois que ce qui peut être de l'ordre du péché, parce que ça fait partie de la liste des 7 péchés capitaux, comme vous faites la différence, les péchés capitaux, c'est ceux qui sont à la tête d'autres péchés, hein, c'est ça que je veux dire. C'est ceux qui me font L'orgueil peut m'entraîner à des abus de pouvoir, à déclencher des hostilités ou aller d'une certaine manière se mettre dans une attitude de compétition avec l'autre, etc., et lui casser sa carrière, lui casser, etc. Donc c'est l'orgueil en tant que tel est un péché capital, hein, c'est même le principal péché capital. Mais la colère, c'est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'elle engendre. La colère est de l'ordre de l'émotion. L'orgueil n'est pas une émotion. Vous voyez, faut bien distinguer la colère. Qu'est-ce qu'elle engendre ? Les actes liés à la colère sont ceux qui peuvent être pécamineux ou pas. C'est-à-dire, peuvent source de péché. Par exemple, si je commence à insulter la personne, si je commence à lui taper dessus, si je commence là, ce qui vient de la colère, parce que j'ai été pris en flagrant délit ou il m'a semblé injuste d'être la réaction de quelqu'un qui est passé devant moi, par exemple, dans la file, on attendait tout ça à la boulangerie, etc., et que quelqu'un passe devant. J'ai le sentiment d'injustice, je ressens de la colère, mais est-ce que je vais prendre la personne, la sortir de la boulangerie, manu militari ? C'est les conséquences de la colère qui sont importantes. Et c'est là où il peut y avoir péché ou pas. De même, je rajoute une chose, de même qu'il peut y avoir éventuellement péché de ne pas réagir à une injustice. C'est-à-dire que je vois se dérouler une injustice devant moi flagrante, quelqu'un qui est humilié par un détenteur, par exemple, de l'autorité publique, qui humilie une personne de façon complètement injuste, irrationnelle, et je contemple, je suis témoin de cette scène-là, et je ne fais rien. Eh bien, ça, c'est pécamineux.
D'accord, c'était un peu effectivement l'objet de notre prochaine question. Si on prend l'exemple de la Bible, il y a quand même une certaine ambivalence. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'appel de Jésus à la douceur, qui prévaut sur tout le reste. Et d'un autre côté, vous avez aussi la colère de Jésus, que je trouve parfaitement justifiée pour ma part, lorsqu'il expulse les marchands du temple à Jérusalem. Et qui semble justifier en fait l'usage de la colère dans certaines situations lorsqu'il y a injustice.
Oui. Alors... C'est vrai que c'est une notion qui est ambivalente, qui est voire ambiguë. C'est-à-dire que c'est dans la Bible ou dans les écrits des pères de l'Église, des écrits spirituels, vous trouverez les deux. Et je trouve ça intéressant de trouver les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse simple à la colère. C'est comme souvent dans notre vie, il n'y a pas une réponse simple aux questions qu'on se pose. Il n'y a pas une réponse unique. Il n'y a pas une seule manière de voir les choses. Vous avez par exemple Saint François de Sales, qu'on appelle l'apôtre de la douceur, qui dit « Je vous le dis nettement, sans exception, ne vous courroucez point du tout. Hein, » en vieux français, il nous dit ça dans l'introduction à la vie des votes, alors que Saint Bernard va dire « Ne point s'irriter quand il faut, ne pas vouloir faire une correction nécessaire est un péché. » Donc le fait d'avoir les deux permet un discernement. C'est-à-dire, la colère est-ce qu'il y a une vraie injustice commise envers moi, envers quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est juste, l'amour propre qui a été froissé ? Est-ce que c'est une certaine fierté, Mais en fait, la personne avait raison de me reprendre. Mais parce que j'ai été repris ou pris la main dans le sac devant quelqu'un d'autre, pour ne pas... Ça monte dans les tours, comme on le dit familièrement, parce que je veux absolument... Vous voyez, du coup, il y a un discernement par rapport à la colère et comment on agit ensuite.
Alors, il y a une notion derrière tout ça qui est quand même la notion de la justesse de la réaction. C'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement des situations dans lesquelles la colère est bonne et où ne pas se mettre en colère est un péché, mais est-ce que tous les actes de colère... du coup, sont bons si la colère est bonne.
Alors, justement, c'est là où je trouve qu'Aristote est intéressant, parce qu'il dit qu'il y a plusieurs critères pour discerner une juste colère, donc qui répare quelque part une injustice. Hein, donc, premièrement, il faut que l'intention soit juste, c'est-à-dire que je veux dénoncer l'injustice. Par exemple, vous avez vu quelqu'un humilier une personne handicapée, se moquer d'une personne handicapée dans la rue. Vous la reprenez. Votre intention est juste. Votre intention n'est pas de briller aux yeux des hommes, par exemple, mais simplement vous voulez rétablir une certaine justice. Donc, intention juste. Il faut que l'objet choisisse ce qui est vraiment, qui est vraiment eu une injustice. Par exemple, on peut très bien dire, reprenant l'exemple de la personne handicapée, bah écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez vous décaler, j'ai un train à prendre, je ne sais pas quoi, je suis un peu pressé, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Il n'y a pas d'injustice. Mais si la personne, quoi, vous humiliez, non, l'objet de la colère ne serait pas juste, parce que juste, c'est, on demande un service. Et ensuite, il faut que pour que ce soit une colère juste, ce soit une réaction proportionnée. Et ça, c'est aussi, c'est ça qui est plus... Ça demande une maîtrise de soi qui est un des fruits du Saint-Esprit, il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, la maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais... Et non pas de rentrer dans une réaction de surenchère, de mots d'oiseau, de etc., etc., qui en fait ne va pas... qui fait que je commets une autre injustice. Parce que je peux très bien commettre une autre injustice parce que je suis de façon excessive. On rentre dans une logique d'ascension, d'invective, de gestes, voire de ceci, voire de cela, de menaces, mais qui est complètement disproportionnée par rapport à ce qu'était au départ. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui me regardent et pour ne pas perdre la face, eh bien, du coup, je rentre dans une ascension, une surenchère. Hein, donc, vous voyez, donc je trouve que c'est important dans la colère, c'est ces trois critères, ce soit une intention juste, vraiment dénoncer l'injustice, un objet juste, c'est-à-dire que vraiment qu'il y a eu une vraie injustice et de dire, de la nommer l'injustice, et puis une réaction proportionnée, que ce soit mesuré par rapport à qu'il n'y ait pas une disproportion dans mes réactions. Quoi. Donc, ça demande une certaine analyse de ça. Donc, ça demande, alors sur le coup, c'est toujours bien de faire. Sur le coup, on fait ce qu'on peut. Tous, on est pris par l'émotion et on se laisse entrer dans une sorte d'escalade symétrique qui fait que l'un et l'autre, etc., va monter dans les tours, etc. Et ça peut aller jusqu'au mal, ça peut aller jusqu'à des choses très graves, quoi. Donc bon, surtout si on a le pouvoir, surtout si j'ai pas quoi, j'ai une arme sur moi, surtout, etc. Donc bon, ça peut aller très loin. Hein, mais c'est intéressant de revisiter ces colères, comment en fait les échecs où j'ai senti qu'il y avait une vraie injustice envers moi, mais en fait j'ai pas eu la réaction appropriée, et du coup de revisiter qu'est-ce que j'aurais pu avoir comme réaction appropriée, qu'est-ce que j'aurais pu avoir comme parce qu'on est tous on n'a pas une maîtrise de soi-même H24, et tant mieux, je veux dire, parce que sinon, il n'y aurait plus de spontanéité, etc. Mais pour la colère, de revisiter ça, de dire, là, il y a... Et puis, de se dire aussi, de se connaître soi-même, j'ai peut-être un penchant à l'excès, c'est-à-dire à des comportements excessifs. Vous voyez, j'ai peut-être une inclinaison à réagir trop de façon générale. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre comme page, comme stratégie, qui va me permettre de tempérer, en fait, ce qu'on appelle la tempérance. La tempérance, c'est non seulement, donc, qui est une vertu cardinale, comme vous le savez, la tempérance, mais la tempérance aussi par rapport à la colère. C'est pas simplement par rapport à l'alimentation, à la boisson, etc. La tempérance, ça peut être de dire tempérer sa réaction, c'est mesurer sa réaction, c'est une certaine mesure. Donc ça veut dire en avoir le contrôle et c'est l'intelligence qui permet de prendre une distance par rapport aux émotions. Ça, c'est important, le rôle de l'intelligence. C'est pour ça que c'est très intéressant chez Aristote, le rôle de l'intelligence et de la volonté. Les émotions sont là, mais ce n'est pas elles qui ont le gouvernail. C'est ma capacité de connaître et ma capacité d'aimer, l'intelligence et la volonté qui ont le gouvernail, c'est-à-dire les facultés supérieures de la personne humaine.
La colère, elle peut revêtir plusieurs formes. Donc, pour certains, il s'agira d'une colère violente et courte, et pour d'autres, ce sera une froideur glaciale, durable, voire même une recherche de vengeance. Et donc, quel est l'impact sur ces différents types de colère? Quel impact que ces différents types de colère peuvent avoir dans la vie d'un couple.
Alors, c'est aussi de se dire, les manières d'exprimer la colère, c'est vrai, elles peuvent être très différentes. Ça peut être par la parole, par une absence de parole. C'est aussi ça, il y a des silences qui sont le fruit de colère. Par le regard, par un désir par une rancœur. Donc, c'est déjà de repérer dans un couple comment ça fonctionne, cette question de colère, et donc de déminer. En fait, il faut arriver à avoir des stratégies pour sortir de ça. Bon, on y reviendra un peu plus tard, mais déjà, on n'est pas en colère tous de la même manière. Et puis, il peut y avoir des colères qu'on ne voit pas venir. On s'est trouvé dans une situation, on s'est trouvé comme bloqué dans une situation, et la seule manière de nous en sortir, c'était écoutez, laissez-moi tranquille. Voilà, on commence à se mettre en colère parce qu'on s'est senti bloqué. Alors, ça peut être des situations uniques, mais quand c'est des situations qui se reproduisent, et particulièrement dans le couple où il y a une vie commune et donc une potentielle réitération des comportements, du coup, on se dit qu'est-ce que je mets en. Et c'est vrai que les colères froides, les difficultés sont parfois plus fortes que des colères qui sont exprimées à haute voix, par exemple. Et donc, mais aussi, il y a des personnes, elles explosent, entre guillemets, puis après, il n'y a plus rien. Simplement, elles ne voient pas dans le cœur de l'autre quelles ont été les conséquences. Est-ce que ces conséquences-là continuent peut-être des journées, voire des semaines après? Voilà, donc c'est envisager aussi l'impact que dans un couple, par exemple, que la colère peut avoir, et ça fait partie de la relecture de la vie de couple habituelle.
Merci mon père. L'épisode que vous venez d'entendre fait partie d'un podcast consacré au couple et au mariage. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Quant à nous, nous vous retrouvons sans attendre pour le prochain épisode de cette mini-série sur la colère. À très vite.